m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
ah, courtoisie. Oui.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bienvenue sur Radio Courtoisie, là, et dans Restons Courtois, que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec Lucien Rabouille, et dans lequel j'ai le plus grand plaisir, vous me pardonnerez Lucien, de recevoir Gaspard Koenig pour son livre « À quoi ?» aux éditions de l'Observatoire. Gaspard Koenig, bonsoir. « À quoi ?» c'est presque le deuxième volume d'une tétralogie que vous consacrez aux quatre éléments. Donc il y a déjà « Humus », la terre qui est sortie, donc « À quoi ?» l'eau. Donc vous me disiez tout à l'heure que vous étiez en train de travailler justement sur le troisième volume qui sera consacré à l'air.
Exactement.
Chaque roman est l'occasion pour vous de rendre compte d'une certaine manière à un public de l'ensemble de votre pensée, de vos découvertes, de vos engouements et aussi de la manière dont vous avez décidé peu à peu d'être un peu plus campagnard que vous ne l'étiez au début. Et on sent qu'il y a dans ce roman le plaisir aussi de faire découvrir une campagne entre guillemets que vous ignoriez il y a quelques années.
Je n'y aurais pas tout à fait, mais c'est vrai que j'y suis maintenant très ancré. C'est d'ailleurs des livres que je cherche à ancrer dans un terroir, en l'occurrence la Suisse normande, ou sous son nom plus poétique pour moi, mais moins usité, le pays d'Ulm, qui est une campagne normande, mais c'est la Normandie du granit. C'est pas du tout la Normandie un peu plus aérienne et légère des colombages. Là, c'est la Normandie lourde et sombre qui prolonge le massif armoricain dans l'ouest de l'Orne. Et en plus, s'agissant de mes affaires hydriques, c'est une Normandie particulièrement intéressante puisqu'il pleut beaucoup, mais il y a très peu de nappes, il y a très peu de rétention. Le cycle de l'eau est très très court parce que le granit, c'est une roche très très dure. Et donc l'eau ruisselle beaucoup, il y a énormément de petits rues, mais en revanche, elle est très peu stockée. Et donc, paradoxalement, dans un pays où il pleut beaucoup, il va y avoir des problèmes de sécheresse de plus en plus importants. Mais donc, voilà, d'abord, j'avais envie d'ancrer toute cette œuvre, toute cette tétralogie dans ce bocage, même si chaque livre va et vient par rapport au bocage, pour effectivement le faire sentir, enfin de manière peut-être parfois poétique, faire sentir les couleurs, les odeurs, la biorégion en fait dans laquelle on se situe, qui est singulière. Et puis par ailleurs, j'ai très envie de faire des histoires qui connectent les humains au milieu dans lequel ils habitent et dans lequel ils vivent. J'arriverai plus, je pense, à écrire des livres qui décrivent uniquement des histoires entre êtres humains, comme si les êtres humains étaient des entités abstraites qui se rencontraient dans un espace parallélépipédique. Les êtres humains sont, qu'ils le veuillent ou non, nous marchons sur un sol, nous respirons un certain air, nous buvons une eau qui est tombée près de chez nous il y a soit 3 mois, soit 10 000 ans en fonction des géologies. Nous sommes absolument attachés à notre milieu, nous croyons pouvoir nous en défaire avec... la clim, les voitures et ChatGPT, mais en fait, il nous revient dans la figure. Et c'est ça que j'essaye de montrer. Et je pense qu'en plus, c'est propice à des développements très charnels. Et donc, ça permet de découvrir des choses. Avec Humus, c'était l'agronomie et les sciences du sol, les lombriques. Avec Aqua, c'est bien sûr davantage l'hydrologie, les bassins versants. Mais autour de chacun de ces thèmes, j'essaye de mettre en jeu les sujets sociaux, politiques qui y sont attachés. Pour moi, Humus, la question de la terre, c'était la question de la radicalité politique contre celle du capitalisme ou du capitalisme vert. L'eau, c'est naturellement l'élément de la politique locale et donc de la question du localisme contre la centralisation, qui est illustrée par deux personnages dans le livre. Donc pour moi, c'est des romans naturalistes dans le double sens du terme. Naturalistes parce qu'ils décrivent une nature, mais aussi naturalistes à la Zola, parce que en fait, ils décrivent la société d'aujourd'hui, une société qui ne peut pas faire fi de la crise écologique dans laquelle elle se trouve, et qui fait vivre autour de cette crise une société bien réelle. Donc ce n'est pas des romans autour d'un ermite dans une cabane loin dans la forêt, même si c'est un style littéraire qui a toute sa valeur. Mais moi, c'est vraiment... l'écologie dans notre société, ici et maintenant, avec ses sigles, ses problèmes administratifs, ses contraintes juridiques, sociales, économiques.
C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce roman, c'est que vous mettez en scène effectivement une vraie nature, mais vous mettez aussi en scène la Comcom, la communauté des communes. Vous mettez en scène le ministère de l'Environnement dans sa tour Sequoia, qui est évidemment une tour parisienne. Vous mettez en scène et vous opposez évidemment tout l'appareillage administratif qui entend tenir compte de cette crise, mais qui est capable uniquement de sortir des plans eau. Puisque là il y a une sécheresse et que donc ce village normand que vous nous décrivez est privé d'eau puisque la source est tarie. Alors les raisons du tarissement, on y reviendra, mais là Bourriou, donc le ministre qui va d'ailleurs, je divulgage un peu, perdre son emploi parce que voilà, et là effectivement il se retrouve à devoir gérer une crise de l'eau. Évidemment ce n'est pas un ministre qui va y arriver, et donc il lance un plan eau avec notamment la mesure phare du futur plan eau, l'installation de compteurs connectés sur tout le territoire, y compris pour les forages privés, à des fins de prévision et d'adaptation. Et pour rendre le plus attractif ce plan eau, il le rebaptise eau intelligente. Voilà. Sitôt révélée, elle suscite les protestations vigoureuses de la FNSEA, qui n'a jamais pardonné au ministre ses propos accommodants envers les activistes écolos et flaire que la séquence est propice pour s'en débarrasser. Les 10 activistes écolos, soucieux de s'exonérer de toute faiblesse passée avec le pouvoir, dénoncent sans pitié un projet qui reviendrait, je les cite, à légitimer l'accaparement privé des ressources. Et donc Bourriou se fait jeter. Et alors, ce qui est très amusant dans le roman, c'est qu'on navigue comme ça continuellement entre le village normand, les sphères parisiennes, la communauté de communes, les experts.
Et Richard, c'est comme Marcel Pagnol.
Ah, sauf que Marcel Pagnol n'avait pas la Comcom.
Manon Dessources.
Oui, mais Manon Dessources, elle est finalement seule. Enfin, tous les personnages de ce livre.
Il y a l'ingénieur du département qui arrive.
Il y a l'ingénieur, effectivement.
Ah oui, mais alors là, Marcel Pagnol, c'est rien à côté de la branche de technocrate d'élite que vous nous avez mis en scène.
Non, mais il y en avait un à l'époque.
Je pense que c'est une référence intéressante parce qu'effectivement, mon livre, c'est un peu Manon Dessources, autant des Comcom. C'est-à-dire qu'on croit. Aujourd'hui, si on veut avoir un rapport poétique, imaginaire, territorial à l'eau, on se trouve en fait forcément confronté à toute l'extraordinaire bureaucratie qu'on a construite de manière générale et en particulier autour de cette ressource, et on ne peut pas s'en affranchir. Et comme romancier, si je mettais juste en scène un village à sec qui essaye de reconstruire sa source, je mentirais, parce qu'en fait, il va avoir la préfecture, il va avoir le SDAJ, le SDRAC, l'ADREAL, la CLÉ, le SBIC, enfin je les énumère à un moment donné, qui ne sont pas forcément d'ailleurs mal conçus ou conçus pour de mauvaises raisons. Et d'ailleurs, dans le livre, quand même, parfois, je donne raison aussi à cette administration centrale. En tout cas, j'essaye de comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est parfois bien intentionnée.
Oui.
Donc, ce n'est pas binaire, ce n'est pas les villageois en raison dans leur autonomie.
Ah non, les villageois, d'ailleurs, se battent
d'ailleurs,
entre eux.
Voilà, même se battent entre eux, même se plantent. Ils auraient peut-être dû écouter l'ENARC, finalement, qui leur avait prédit qu'il y aurait une sécheresse, et puis c'était bien le cas. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je parlais récemment avec un ami, encore un des derniers jacobins de la haute administration, qui disait finalement qu'on a présenté ce livre, la presse a beaucoup présenté le côté autonomie locale contre les méchants technocrates, parce qu'effectivement, ça simplifie la chose. Mais lui, l'ayant lu, trouvait que finalement, c'était aussi assez valorisant pour son côté de l'histoire, pour l'administration. Et donc, c'est quand même ce que j'essaye de faire, c'était pareil dans Humus, c'est de ne pas porter directement de message. Peut-être dans celui-ci, vers la fin, il y en a tout de même un. Mais enfin, de laisser quand même les lecteurs faire leur chemin, de leur exposer les arguments des uns et des autres, les manières de penser, les ambiguïtés.
Richard s'emballe, il voyait déjà l'appel à une nouvelle chouannerie des Géritales.
Pas exactement, non, parce que j'ai lu le livre en entier, et donc on était un peu éloigné de la chouannerie.
Pour avoir grandi et vivre encore à Cherbourg, précisément cette Normandie bocagière que vous connaissez, que vous décrivez fort bien, il était courant là-bas. Il n'y a pas moins parisien pourtant, moins technocratique, moins jacobin, moins tout ce qu'on veut que la population cherbourgeoise, de dire quand même nos braves paysans qui pompent à 14h les nappes phréatiques et qui arrosent les champs bocagers à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sont pas forcément exemples de tout reproche. Donc toute cette administration vient aussi du fait que les gens ont aussi perdu en maturité, en autonomie.
Tout le livre se demande pourquoi et comment est-ce que, ou à l'aune de quelle crise, on peut établir les conditions pour que les gens qui sont aujourd'hui déconnectés d'une part de leur milieu et d'autre part d'eux-mêmes et entre eux, puisque c'est un village moderne, ce village que je décris. Donc c'est un village où les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas, s'aiment pas.
Ils sont arrivés depuis assez peu longtemps, pour certains d'entre eux.
Certains davantage, mais j'étais encore chez un voisin avant-hier qui m'expliquait qu'il avait vu une fois en deux ans les gens de la maison d'à côté.
C'est la Manche. Hein.
Aujourd'hui, les villages sont...
L'individualisme agraire, il est forcené, je pense, depuis plusieurs siècles.
Je pense quand même que c'est assez universel aujourd'hui. Enfin, c'est un fait social de notre temps. Et que les villages sont devenus, pour beaucoup, des barres d'immeubles à l'horizontale où bon, on ne prend plus la peine de se parler parce que, de toute façon, toutes les activités ont lieu ailleurs, parce qu'il y a la voiture, parce que aussi les sociologies, les religions, les... vision du monde, les niveaux de revenus, les emplois sont extrêmement différents, extrêmement variés, extrêmement hétérogènes. Et donc, ce livre, c'est un peu à quelles conditions j'arrive à faire revivre quelque chose comme une communauté qui se met à s'intéresser à ses ressources, à les comprendre, à prendre des décisions ensemble. Mais pour ça, je descends assez profondément dans la noirceur de l'âme humaine pour bien montrer au lecteur que je n'essaye pas de décrire une population idéale ou empreinte d'une vision politique... Non, c'est les gens tels qu'ils sont, voire pire qu'ils ne sont, un peu comme dans la terre de Zola, où vraiment personne n'en réchappe, tout le monde viole tout le monde vole tout le monde tue tout le monde. Alors, ça va peut-être pas aussi loin dans ce livre, enfin, c'est quand même pas très joli à voir, et la scène qui met peut-être ça le mieux en valeur, c'est quand la nouvelle mairesse, qui est empreinte d'idéalisme, tient ses premières permanences de mairie. Alors, c'est des scènes que j'ai vécues, parce que pour écrire ce livre, j'ai suivi un maire rural dans ses activités quotidiennes. Et la permanence de mairie, c'est l'équivalent du confessionnal autrefois, c'est-à-dire que les gens racontent le pire d'eux-mêmes, sans aucun filtre, sans aucun tabou, parce qu'ils s'attendent à ce que leur interlocuteur les pardonne immédiatement et arrange leurs affaires. Et la pauvre se dit, mais c'est pas possible, c'est pas avec ces gens-là qui veulent faire couper les arbres parce qu'ils les dérangent, parce que les glands les dérangent, ou arrêter de faire sonner les cloches de l'église parce qu'ils veulent se reposer à 8h du matin, que je vais pouvoir faire ma communauté, mon village, mes communs. Donc, mais si, en revanche, à partir de ces gens-là exposés à certaines circonstances et à cette crise de l'eau, je parviens à les mettre ensemble et à les faire dialoguer et à les faire raisonner, à ce moment-là, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.
Alors, effectivement, ça, c'est le projet politique, si j'ose dire, du livre. Exactement. Puisque ça se termine par l'éloge des communs et de la gestion des communs en vous appuyant sur la papesse des communs, Ostrom.
Ostrom.
Voilà. J'essayais de me souvenir de son prénom, c'était un beaucoup trop grand effort pour moi. Mais c'est un véritable roman au sens où, effectivement, Torricelli qui vient demander qu'on supprime le chêne biséculaire parce qu'il y a des glands qui tombent sur son gazon alors qu'il il le tond avec un enthousiasme d'anglais. Voilà, on se dit, mon Dieu, ce type est fou. Et il y a un autre qui s'appelle Jobard, alors vous avez bien choisi le nom. Lui, c'est l'agriculteur du coin qui est hyper industrialisé, qui se moque des nitrates, qui pollue la rivière, qui s'appelle La Maline. J'ai oublié de préciser qu'on était à Saint-Firmin. Jobard, c'est tout le contraire. Sur les étiquettes de ses produits, on peut admirer des Normandes aux poils soyeux pâturés à côté d'un ruisseau, alors que c'est Holstein noir et blanc, des robots à lait, voit rarement la lumière du jour. Jobard gave ses vaches d'antibiotiques et déverse méthodiquement engrais et pesticides dans ses champs. La crème Jobard qu'on trouve dans tous les supermarchés de la région, la crème du bocage, comme l'indique le logo, Mathieu n'en coûterait pas pour tout l'or du monde. C'est de la mort aura, répète-t-il. Pourtant, Jobard est le roi des subventions PAC et roule en Mercedes. C'est lui qui a gagné. Alors, et Jobard donc a un neveu qui, lui, est technocrate, qui s'appelle Martin. Oui. Et Martin va connaître une espèce de révolution, c'est-à-dire que Martin, au début, est en train de faire carrière dans la tour Sequoia, à la faveur de la chute de Bourriou et du fait que, brusquement, sa vie lui paraît avoir peu de sens. Oui. Il va se retrouver de retour à Saint-Firmin et il va endosser ce rôle de celui qui va essayer de résoudre la crise. Et c'est là où, effectivement, votre personnage est intéressant. C'est pas le technocrate qui renie ce qu'il a été en tant que technocrate, pas du tout. Il continue à parler comme un technocrate avec des mots extrêmement compliqués, mais qui lui permettent de résoudre ce qui se passe à Saint-Firmin. Donc, effectivement, ce savoir d'énarque, en fait, n'est pas inutile.
Ah, d'abord, donc cet énarque, qui est un peu au début la caricature de l'énarque.
Ah, qui est totalement la caricature. c'est un des plaisirs du livre, là, quand même. Pour ceux qui n'aiment pas l'énarchie, il faut lire ce livre.
Bon, mais alors après, en ayant beaucoup fréquenté, je pense que c'est quand même une caricature assez exacte. Et aussi exacte dans le sens où je montre que notre énarque, il est bien intentionné, il travaille beaucoup, il a vraiment l'ambition de concourir à l'intérêt général. Il milite à la Fondation Jean Jaurès, de centre-gauche. Il pourrait militer au centre-droit, ça serait à peu près pareil.
Non, mais c'est très très bien que vous ayez choisi Jean Jaurès.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un quand même d'assez vertueux, Martin, et d'assez digne. Mais le problème, c'est qu'il est convaincu, parce que c'est sa formation qui le veut, que les gens laissés à eux-mêmes font n'importe quoi. et que heureusement qu'à la tour Sequoia, donc je rappelle quand même que le ministère de l'Environnement est situé à La Défense, dans un univers absolument minéral, et si on pense que le milieu contribue à ce qu'est un être humain, bah, ça en dit long. Martin essaye tout de même de bien faire, et il lui faut une certaine révolution intellectuelle, personnelle, existentielle, et il faut qu'il traverse lui-même certaines crises, qu'il démissionne, ou qu'il soit viré, ou qu'il soit poussé à la démission, pour qu'il redevienne un peu humain, en fait. Et que, du coup, après, ce savoir, sa lecture d'Ostrom, lui permette d'agir différemment. Alors, toujours sous le contrôle de Léa, si je rentre dans les détails du livre.
Mais il faut, parce que Léa...
La naturopathe du village.
C'est la naturopathe, mais elle vient de la ville. Et c'est, là aussi, vos personnages sont intéressants. Elle fait partie de ceux qui ont débarqué dans le village il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une vraie fleur de béton. Et d'ailleurs, il y a l'une des scènes, c'est une naturopathe, elle est habitée avec un sari, elle passe son temps à faire de la réflexologie plantaire avec des bols hindous, pardonnez-moi.
La calinothérapie aux arbres.
Ouais, voilà, donc c'est une espèce de caricature, mais en même temps, disons, sa proximité avec le béton la rend la plus proche de la source qui elle-même est engagée dans le béton.
Oui, absolument, parce que aujourd'hui, en fait, ceux qui, dans un village, essayent de reprendre les traditions et de comprendre les fonctionnements ancestraux et qui font l'éloge parfois des anciens ou des anciennes pratiques ou qui essayent d'en retrouver le sens, et ben ce sont souvent les plus nouveaux, les néo-ruraux. Alors qu'en revanche, les anciens qui sont passés par les Trente Glorieuses n'ont aucune envie de revenir à l'univers, à la ferme des années 50 qu'ils ont connu. Et dans le livre, le personnage de Pierrette, qui est l'ancienne, qui a vécu et qui a travaillé au village depuis toujours dans l'agriculture, elle, il ne faut pas lui parler de revenir à la source des anciens et tout ça. Elle veut son pavillon en béton, son confort moderne, son écran plat.
Elle veut du plastique qu'on arrive à laver. Enfin,
et
voilà.
Elle dit, c'est le progrès, c'est le progrès. Et elle, elle est à fond pour Martin au début, l'énarque. Donc, par rapport à Pagnol, par exemple, le rôle de l'ancien aujourd'hui, en fait, il est complètement à contre-courant, alors que le rôle du néo-rural, moderne, un peu bobo... alors, bon, Léa n'est pas tout à fait bobo, parce qu'il vient quand même d'une banlieue assez dure. C'est justement d'essayer de retrouver ce que les autres ont perdu. Donc chacun va un peu en sens inverse. Et dans cette dialectique-là, ils peuvent parfois se rejoindre ou parfois se séparer définitivement. Mais c'est très... Aujourd'hui, je sors de mon livre, mais c'est très clair dans les villages de montagne où ceux qui veulent, par exemple, stopper les projets de développement de ski, c'est toujours les nouveaux arrivés. Et ceux qui, au contraire, veulent développer la montagne d'un point de vue économique, touristique, classique, c'est... ceux qui sont des anciens paysans, en fait, qui avaient les terres, qui avaient les fermes et qui, d'ailleurs, souvent, sont fait beaucoup d'argent grâce à ça. Mais ça va aussi au-delà de l'intérêt financier. C'est presque c'est deux idéologies qui se confrontent.
Vous savez quel ministre résidait dans cette circonscription, juste à côté du lieu que vous décrivez, ministre de l'Environnement? Nathalie Kosciusko-Morizet, qui correspond tout à fait, finalement.
Mais dans le Cotentin, non?
Un peu plus bas, justement, il me semble. Ah oui. Qui correspond tout à fait à cette refascination, en quelque sorte, de la campagne, vue de la ville.
Non, là, je gage que vous n'avez pas pensé à elle vous aviez imaginé le personnage de Martin. Martin devient maire du village, mais là, c'est allé un peu vite en besogne, et c'est notamment passé sur des épisodes un peu farcesques, on y reviendra, mais aussi la manière dont vous décrivez les usages de l'eau, parce que alors, c'est un roman à thèse, heureusement on est assez éloigné de Paul Bourget, merci beaucoup. C'est aussi une espèce de manuel de l'eau, vous nous décrivez la manière dont une source est aujourd'hui enrégimentée par un certain nombre de lois, mais aussi des équipements, vous nous décrivez des usines d'épuration, enfin là on rentre dans tous les usages de l'eau, y compris les plus techniques, voilà, donc c'est peut-être ce côté roman naturaliste avec le côté reportage, mais heureusement ça se mélange aussi avec vraiment du Marcel Aimé, pas simplement parce que l'un de vos personnages s'appelle Martin, mais parce qu'il y a le côté un peu farcesque. Mais il y a aussi le fait de faire parler les gens et chacun a son timbre.
Absolument.
Bien précis.
Oui, oui.
Vous les avez caractérisés. Il y en a certains qui vivent des vies qui sont presque en dehors de l'intrigue. Je pense à Maria, par exemple, qui à un moment donné part du village, vous auriez pu la laisser partir. Non, pas du tout. Vous nous décrivez sa vie d'après. Ça n'ajoute rien en soi à votre thèse, mais en revanche, on est très content qu'elle continue à exister dans un univers parallèle. Elle est retournée en Roumanie et vous décrivez longuement les Pâques roumaines, et donc rien à voir avec la Normandie de Saint-Firmin. Mais en revanche, voilà, Maria a une, vraie, si a accents, une vraie substance.
Même
quoi.
Si les deux accents se ressemblent, c'est ma thèse qui est assez isolée, mais que je défends.
Voilà. Alors, et là, donc, c'est Laurent qui prend la parole. Écoute, c'est de la folie, Mimi a raison. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Et quand bien même ça marcherait, qui peut se contenter de 4 heures d'eau par jour? Donc la sécheresse a frappé et l'eau est contingentée. Il ne s'agit pas que de boire. Le robinet, on le tourne tout le temps. Pour se faire un café, pour enlever une tache de gras, pour rincer une assiette, pour se rafraîchir le visage, pour soigner une égratignure, pour se brosser les dents, pour remplir la gamelle du chat, pour laver un fruit, pour diluer une peinture, pour faire tremper la salade, pour refroidir une soudure. Voilà. Et dans cette énumération quotidienne de l'eau, on sent à chaque fois, chez l'interlocuteur, le fait de se dire « Oui, cette eau évidente qui coule du robinet, en fait, elle est vitale et je l'ignore. »
Alors ça, complètement, ça c'est vraiment évidemment le grand sujet du livre, c'est que nous tournons le robinet, l'eau coule et ça nous semble naturel, mais que néanmoins cette eau, elle vient de nappes ou de rivières ou de sources, et qu'il est tout à fait probable, puisque pour écrire ce livre, je me suis inspiré des rapports scientifiques, notamment qui anticipent les sécheresses à venir, notamment en Normandie, tout à fait probable qu'il y ait bientôt des villages à sec. D'ailleurs, on va voir ce qui se passe cet été, puisque ça commence quand même très très mal. Et que chez moi, d'ailleurs, la mare est déjà à sec, par exemple. Ma citerne est à sec. Enfin, on voit très bien. Enfin, je réalise d'ailleurs avec presque angoisse que les scènes que je décris dans le livre avec les arbres cramés, par exemple, sont sous mes yeux aujourd'hui. C'est assez presque vertigineux. On entre dans un univers complètement différent. C'est ce que montre ce livre. Alors, c'est pas de la science-fiction. Tout ne prend pas feu. Mais c'est presque pire. C'est ces petits éléments, les arbres qui bourgeonnent en novembre. C'est pas tout à fait normal. Les grandes moussons en juin, c'est pas normal. Et effectivement, plus rien n'est normal au sens où la normalité est constituée de nos expériences passées. Après, je rebondis sur une chose que vous avez dite qui m'a beaucoup touché, que chaque personnage a son timbre singulier. J'ai énormément travaillé les dialogues pour effectivement que Léa parle un peu en slam, que les gens du bocage parlent comme les gens du bocage, que les narques parlent avec les sigles des narques. Et à chaque fois, j'ai fait travailler les dialogues par mes différents personnages, si je puis dire. Donc, par exemple, j'ai fait relire le livre à un ami qui est salué à la fin, qui est éleveur de brebis en Normandie, essentiellement sur les questions de bocage et de dialogue, pour vérifier que c'était crédible, qu'on parle comme ça. Alors, il n'y a plus beaucoup de patois, mais il y a moins des expressions, des manières de voir, des manières de formuler. Et je pense qu'au début, en fait, les personnages se parlent, mais ne se comprennent pas, parce qu'ils viennent d'univers différents, dans le même village. Et finalement, ils parlent de la même chose, ils utilisent évidemment des mots français, mais ils restent chacun dans leur paradigme. Et le but du livre, c'est de savoir si tous ces différents méandres arrivent à la fin à se rejoindre et à élaborer un langage commun.
Alors, entre deux personnages bien caractérisés, il y a tout ce travail littéraire où il ne s'agit pas de faire passer l'idée, mais au contraire de s'attacher à faire vivre ce bocage, enfin ce bocage bien spécifique. Et par exemple, vous décrivez un chemin creux, alors comme il en existe quasiment plus depuis le remembrement, mais justement, il en existe encore. Elle n'avait pas eu l'idée d'aller inspecter les épais traits verts qui signalent les haies. Ce que Maria traverse à présent, c'est à la fois un dehors et un dedans, un chemin qui relie deux fermes et une haie qui sépare deux parcelles. C'est aussi un univers entier avec ses histoires, ses habitudes, ses codes, ses drames quand un arbre déraciné par le vent tombe en travers du chemin, ses joies quand la mésange boréale, si boudeuse de nos jours, vient nicher dans le tronc mort. Et on voit peu à peu surgir non seulement un paysage, mais aussi des gens, des vrais gens, avec des souffrances qui sont des souffrances de héros de romans et pas de véhicules d'idées. Et là, par exemple, toujours à Saint-Firmin, que Maria a déserté. Son mari, Laurent, est en train de continuer à exister. Son pire regret, c'est d'avoir connu la passion. J'adore cet aphorisme. S'il n'avait pas rencontré Maria, il aurait pu être humblement heureux. Désormais, il ne peut espérer mieux que la terne satisfaction des jours qui passent.
Laurent est un peu sacrifié.
Oui, Laurent en prend plein la tronche. Alors, heureusement, il y a des passages plus drôles. Hein. Je ne résiste pas au plaisir d'un côté qui est quasiment fantasia chez les Plouks, où on a deux influenceuses chinoises qui débarquent à cause d'un collapsologue qui s'appelle Salim, et donc qui viennent dans le village tourner une vidéo, réaliser des millions de vues, ouvrir une cagnotte. Et elles vont voir Pierrette, évidemment, et vous êtes ben gentil, revenez berre la goutte en soir, leur lance Pierrette sur le pas de la porte. Cette invitation restera hélas incomprise de l'intelligence artificielle de Google, trop peu nourrie de patois normand.
Oui, alors, mais, donc cette scène absolument burlesque avec les deux Chinoises qui font du dark tourism, comme on dit, c'est-à-dire du tourisme de la catastrophe à Saint-Firmin parce qu'il y a une sécheresse, qu'elles ont vu ça sur un site et qu'elles disent formidable, allons regarder ça et puis on va le partager avec nos followers. C'est aussi d'ailleurs une espèce de scène géopolitique parce que là, on s'aperçoit que les Chinoises nous regardent, nous, comme un espèce de pays sous-développé qu'on va visiter, auquel on va faire des dons. Mais c'était aussi une manière de faire décompresser le lecteur après des scènes dures de sécheresse et angoissantes, en tout cas pour moi, et de faire rire un bon coup avec un chapitre un peu plus léger, puis après on repart. Donc je pense qu'il faut... Enfin, j'essaye en tout cas dans mon écriture d'alterner la gravité de la situation qui est décrite, et puis le sérieux aussi des problèmes qui sont en jeu, avec autant que possible de l'humour, des passages, comme vous le disiez sur Maria, qui partent un peu ailleurs... pour ne pas l'enfermer dans quelque chose de trop lourd.
Oui, c'est une démonstration, mais c'est d'abord un roman. Et vous êtes un essayiste, vous avez écrit un roman, et on voit bien le départ qu'il y a entre vos deux écritures.
Oui, alors j'ai toujours alterné depuis 20 ans que j'écris les romans et les essais. J'ai commencé en écrivant des romans, puis des essais, puis roman-essai. Le roman me permet souvent d'aller là où l'essai m'interdit d'aller, d'aller à l'extrême, d'aller jusqu'au bout, et puis de faire vivre des hypothèses qui ne sont pas forcément les miennes, de penser contre moi-même avec d'autres personnages. Mais là où vous disiez quelque chose de très juste, c'est on est d'abord emporté par les personnages. Si ce roman est un roman, si le roman est réussi, c'est que d'abord et avant tout, on suit des personnages, que les personnages vous font traverser des milieux, des idées, des hypothèses, mais qu'on est entraîné et qu'on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir...
Et ce qu'il devient.
S'il devient, s'il est gentil, s'il est méchant. Et je trouve la différence... Je lis beaucoup Zola en ce moment pour comprendre justement cette écriture naturaliste. Et je trouve chez Zola, il y a des romans que je lis d'un trait parce que je suis le personnage et un peu par hasard, comme ça, par coïncidence, j'ai traversé aussi tous les milieux qu'il m'a décrits. Et il y en a d'autres où il est tombé de l'autre côté. Et on sent que le personnage est un prétexte et on s'ennuie. La débâcle sur Sedan, c'est un texte à la fois magnifique, mais où, sur la toute première moitié du livre, c'est des descriptions de batailles. Alors, il y a des personnages dedans, mais les personnages disparaissent, en fait. C'est les grands mouvements de troupes qui sont décrits et qui sont franchement, j'ai trouvé assez, assez rébarbatif. Alors qu'il y a d'autres livres où la Terre, on est pris d'un bout à l'autre, le livre sur le Paris haussmannien, là, on m'échappe.
Les chiens à bouille, normalement, vous devez voler à notre secours.
De Paris.
Non, sur les...
La curée.
La curée, merci. Voilà. Donc, c'est vraiment l'enjeu de cette écriture naturaliste de jamais tomber dans le trop descriptif et que la description soit toujours au service de l'histoire et que ce soit les idées qui soient au service des personnages plutôt que l'inverse. Et je travaille beaucoup avec mon éditrice là-dessus, que je salue d'ailleurs, Emma Sodin, qui m'a vraiment forcé à toujours penser à mes personnages, les enrichir, les mettre en chair et ne jamais laisser l'idée prendre le dessus.
C'est tout à fait réussi.
Vous citez beaucoup Émile Zola. Apparaît tout de même dans votre ouvrage un nom plus couleur locale, littéraire, Jules Barbet d'Aurevilly, justement. Vous parliez de la noirceur des personnages cotentinés, vous parliez de leur attachement un peu baroque à la terre, vous parliez aussi de ces éléments qui finalement complexifie le rapport du sujet à lui-même, puisque le sujet n'est pas seulement un cogito, mais aussi quelqu'un qui est quelque part. En vous lisant, effectivement, peut-être que l'écriture est plus démonstrative, plus proche d'Émile Zola, il y a un peu quand même cette extravagance qu'on attribue à l'auteur du Cotentin, ne serait-ce qu'aussi que par la dichotomie Paris-Province, et aussi par cette volonté que vous affichez sans cesse d'incarner les personnages, et notamment de les incarner dans une passion. C'est très éclairant ce que vous écrivez, ce que vous dites, sur le décalage entre la manière dont certains se représentent la ruralité, les horizons d'attente qui sont les leurs, et la réalité d'une génération qui a connu justement des semaines où on ne pouvait se reposer que 2 ou 3 heures, et le reste du temps on faisait les foins, on était au champ, on était mal payé par des thénardiers, on avait la terre. Certains, mon grand-père m'a élevé comme ça, m'a dit ne reviens jamais à cette époque, donc tu es nostalgique sans l'avoir connu. Et c'était un cultivateur. Et on aurait pu s'attendre à cette génération, à un goût de la tradition, etc. C'est quelqu'un qui va chercher son round-up à 40 km parce qu'il a peur qu'on l'interdise tous les 5 ans. Et toute cette génération est comme ça. Absolument toute cette génération est comme ça.
Y a une dialectique très forte aujourd'hui. Enfin, sur ce sujet précis, moi je pense que l'agriculture n'a pas d'autre choix, y compris pour survivre elle-même, que de faire une transition très forte vers l'agroécologie. Mais ça ne veut pas dire revenir en arrière. Ça veut dire explorer le nec plus ultra de la science moderne, de la science agronomique, des associations culturales, par exemple, pour pouvoir se passer de pesticides d'une manière que leurs enceintes aient préservé aussi les rendements et une manière peut-être plus industrielle de travailler. Donc je pense qu'on est dans cette dialectique et que les tensions extrêmes qu'on voit aujourd'hui dans le monde agricole sont dues à ça. On est entre deux modèles aujourd'hui, on n'a pas encore choisi, et donc les agriculteurs souffrent énormément des injonctions contradictoires. Ils voient bien que c'est plus possible de continuer comme avant, mais en même temps, ils n'ont ni la marge de manœuvre intellectuelle, morale et financière d'effectuer la transition. Certains le font, mais ça reste évidemment minoritaire. Et sur les problèmes de l'eau, c'est très, très frappant. Là, on a eu encore aujourd'hui une loi qui permet aux agriculteurs dérégule un certain nombre de pratiques pour que les agriculteurs puissent s'accaparer davantage d'eau. On voit bien que tout ça n'est absolument pas tenable, c'est ridicule. Il y a de moins en moins d'eau, il y en aura de moins en moins. Et donc, c'est pas simplement en enlevant de la réglementation qu'on va améliorer le sort des agriculteurs. C'est la thèse du livre, c'est que ces situations doivent avant tout se résoudre au niveau local. L'eau, sur un bassin versant ou sur un sous-bassin versant, connaissez à peu près la quantité et le trajet de l'eau. Et c'est le moment où, justement, les êtres humains peuvent se mettre tous ensemble pour délibérer. C'est le sujet premier de la délibération politique, c'est l'eau. Quand les êtres humains s'installent, quand ils se sédentarisent, c'est toujours à côté, évidemment, d'une source, ou d'une rivière ou d'une proximité d'une nappe et d'un forage. Et le premier sujet politique de discussion, c'est comment on se partage l'eau, comment on prend soin de l'eau. Aujourd'hui, on l'a complètement oublié. L'eau, elle est donnée par l'ARS, elle vient du robinet ou on l'achète au supermarché. Et ce sujet, en fait, il va revenir. Et on a besoin d'instances, justement, de paroles, parce que l'eau, c'est aussi la parole. L'eau ne peut circuler, ne peut méandrer comme elle devrait le faire davantage. Ralentir l'eau, c'est quand même l'enjeu de l'hydrologie contemporaine. Elle ne peut méandrer que si la parole circule, parce que l'eau, elle passe par toutes les propriétés. Et donc, pour se la partager, il faut que tout le monde se mette d'accord. Et puis, elle traverse tous nos corps aussi. C'est vraiment l'élément du commun par essence.
Alors, cette idéologie du commun, pardon, cette théorie du commun, cette pratique du commun, c'est effectivement toute...
Pratique
toute,
très ancienne, hein, d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, Ostrom a théorisé à partir d'exemples.
Exactement.
Et je me souviens de la revue monumentale, donc la revue du Centre national des monuments historiques, qui avait consacré toute une... Il y a quatre ou cinq ans, tout un numéro à la gestion de l'eau. Il y avait de très beaux exemples de pratiques de commun dans des pays de montagne, dans des pays de plaine. Voilà. Vous nous mettez en scène, évidemment, cette sécheresse qui arrive dans ce bocage, l'eau qui est contingentée, la mère Maria qui tient absolument à avoir une solution locale. Évidemment, au niveau national et même au niveau de la Comcom, de la communauté de communes, on refuse cette solution locale. On finit d'ailleurs par punir le visage de Saint-Firmin de n'avoir pas voulu s'inscrire dans la Comcom, mais vous en profitez aussi pour reparler un peu plus largement de l'agriculture industrielle grâce à ce personnage de Jobard qu'au début on prend franchement pour un franc salaud, en plus il roule en Mercedes donc voilà, il est riche, mais peu à peu on apprend qu'elle est vieille et on se rend compte qu'en fait que Jobard a d'autres amours que l'argent, mais Il y a une tirade de Maria qui est vraiment très belle. Donc, elle lui dit qu'avec son maïs qu'il arrose, il est en train de pomper le sang du pays. Je n'ai pas fini. Le maïs, comme c'est joli, le maïs, les belles tiges vertes, on les croquerait à pleines dents. Sauf que ce maïs-là, il ne sert pas à nourrir les êtres humains et même pas les bêtes. Il part directement au méthaniseur. C'est plus rentable, hein. Beau modèle. On met du pétrole saoudien dans les tracteurs, on verse du gaz russe et des phosphates chinois sur la terre. On y sème des graines de labo allemand, on en sort de fausses plantes, on les laisse pourrir, on revend le tout comme du biocarburant 100% made in France. C'est du recel d'énergie fossile. Et donc là, on sent que votre libéralisme, malgré tout, vous êtes réputé libéral, on sent qu'il y a des limites malgré tout au marché.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être souverain, il faut se passer des engrais et des produits de synthèse, c'est sûr. Regardez ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, c'est vraiment fascinant. L'ONU annonce que le monde va peut-être entrer en famine. Pourquoi ? Parce que les engrais azotés sont bloqués puisque un tiers des engrais azotés passent par le détroit d'Ormuz. Et les engrais azotés, c'est quoi ? C'est qu'on utilise de l'énergie fossile pour brûler de l'air, d'où on va extraire de l'azote. Et ensuite, cet azote est remis dans les champs. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de l'azote ? Une fois qu'on l'a ingéré au bout de la chaîne, nous, êtres humains, il part où tout a l'égout et il finit brûlé une deuxième fois, en fait, dans les stations d'épuration. Donc, à l'origine comme à la fin, on brûle de la matière fossile pour créer puis détruire, ou remettre dans l'air, de l'azote. Alors que l'azote, on l'a, c'est notre urine. C'est pour ça que jusqu'au 19e siècle, les villes étaient autonomes, y compris Paris, en alimentaire parce que les excréments des habitants étaient réutilisés à travers la vidange des fosses d'aisance par les paysans qui engraissaient leurs champs et ça repartait. Et c'est un cycle. Et donc casser ce cycle, c'est évidemment pas, libéralisme ou pas, très ingénieux. On l'a fait à une époque. Je pense que maintenant, il faut reconnaître nos erreurs et progresser parce qu'on a des techniques pour faire différemment et pour retrouver précisément une souveraineté et surtout une souveraineté locale sur les enjeux alimentaires.
Et le problème de votre personnage, Jobard.
Oui, Jobard, parlons de Jobard.
Si la méthanisation progresse et si effectivement on a des petits malins qui en profitent pour davantage faire de rendement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vocations agricoles, notamment spécifiquement dans la Manche. Et donc on assiste à une déprise agricole de la terre effectivement cultivée, laquelle terre va être concentrée, on le sait désormais, par des grands groupes qui vont être mis en culture par des Jobards de telle façon.
Voilà, alors Jobard d'abord est un industriel, bon, il a 300 vaches, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus, c'est pas une multinationale, Jobard. Jobard, c'est le gros agriculteur du coin,
oui.
Bon, qui transforme lui-même, qui a effectivement des méthodes intensives, mais c'est pas un financier, quoi.
C'est pas le groupe Avril.
Voilà, c'est l'ancien maire de la commune, il a hérité de sa ferme depuis plusieurs générations, il en veut beaucoup à son frère, d'ailleurs le père donc, de Martin, parce que lui, il est parti à la ville pour devenir expert comptable, et que Jobard, en fait, on l'a laissé tout seul, sa femme est partie, son frère est parti, et on s'aperçoit aussi, et je mets quand même en scène la détresse de Jobard, enfin, sa vie très difficile, où il est seul à tout gérer, où il a toujours des problèmes, où il va traire ses vaches toujours lui-même, matin et soir, enfin, dans la salle de traite, où il y a une scène d'ailleurs qui se déroule à la fin, une très violente engueulade avec son neveu dans la salle de traite, parce qu'en fait, on s'aperçoit que Jobard, il a beau être cynique, et il a des rêves qui sont des rêves, en fait, d'enfant, notamment de transmission de sa ferme, dont il comprend qu'ils ne vont pas pouvoir, probablement pas pouvoir se réaliser. Et là, c'est exactement le problème que vous soulevez, c'est celui de la transmission, et en faute de transmission, de la concentration des exploitations dont on anticipe que le nombre se réduise dans les années à venir parce qu'on rachète, on rachète, on rachète. Et tout de même, je pense que tout le mouvement des néo-paysans, c'est-à-dire des gens qui vont quitter leur univers urbain pour se former et ensuite se mettre à l'agriculture,
c'est
très dur. Il y en a beaucoup qui renoncent, qui échouent. Mais je pense que c'est quand même probablement ça le plus grand réservoir de force et d'espoir pour justement pérenniser les fermes.
Et c'est paradoxal, puisque ceux qui vont finalement sauver la ruralité telle qu'on la connaît, avec des haies, avec des bêtes, avec des cultures, c'est pas tant cette génération qui a beaucoup investi dans le contreplaqué, dans les meubles en formica, dans le Roundup, comme Jobard, comme les grands-parents, comme les gens qui parlent patois et qui ont un mode de vie finalement beaucoup plus proche de ce que c'était avant. Ceux qui vont sauver la ruralité, ben c'est des créatures étranges, des créatures tatouées, aux cheveux bleus, qui
exactement.
Viennent de la ville, avec des idées un peu... Mais Richard de Sèze, vous devriez vous balader en campagne, vous verriez que ceux qui...
Merci du chien.
Mais pas seulement dans les maisons de famille. Mais
d'une part, j'y habite, mon voisin est un porcher qui a 450 truies, je le connais, nous échangeons mon foin contre ses cochons, voilà, donc... Et surtout...
Vous ne faisiez pas les foins à 14 ans.
Je fanais les foins beaucoup plus jeunes que ça, dans la propriété familiale,
bon,
effectivement, avec des râteaux en bois. Nous dressions des andins, voilà, donc c'était des après-midi un peu ennuyeux, mais ça forge un peu le caractère aussi. Et l'un de mes cousins, c'est pour ça que je me permets d'être dubitatif,
après
un père qui a mécanisé à outrance les 700 hectares qu'il a fini par accumuler, est en train justement de faire sa révolution culturelle par exemple, ne labourant plus la terre, mais avec un semis direct, etc. Voilà. Autrement dit...
Il y a des gens intelligents.
Oui,
mais, bien sûr, mais ce que montre Gaspard Koenig dans son roman, c'est que les gens qui vont animer les foires de village, qui vont lancer des marques de bière artisanale ou quoi, ben c'est des gens qui sont assez improbables par rapport au mode de vie rural traditionnel.
En tout cas, moi je donne raison aux deux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une innovation agronomique, notamment sur le semi-direct sans labour, qui est tout à fait passionnante, parce que là, ce n'est pas du tout un retour en arrière, c'est au contraire une rupture avec 10 000 ans de tradition de labour. Et tout d'un coup, la science nous apprend qu'il vaut mieux ne pas labourer, que ça demande certaines techniques, et que ça permet de rendre le sol plus vivant. Alors moi, je le fais très modestement sur mon petit potager en le couvrant de 30 cm de foin en permanence, de sorte que j'ai plus qu'à enlever le foin. La terre est parfaite, bien humide, pas une mauvaise herbe, pas un adventice. Je plante, je récolte, je remets mon foin. Et comme ça, en fait, ça demande moins d'efforts. Alors certes, hein, je ne suis pas, évidemment, je ne peux pas en vivre. Mais bon, au moins, j'expérimente un petit peu ce dont il est question. Et... Également, je vois très bien, et c'est tout à fait ce qui est illustré dans le livre, qu'aujourd'hui, la ruralité est très souvent une ruralité choisie, de gens qui n'appartiennent pas familialement à l'univers de la campagne, mais qui se le réapproprient et qui le refont vivre, et qui le font vivre de manière extrêmement intéressante, en y rajoutant une petite touche de quelque chose qu'ils ont exactement comme Léa, qui a toujours son slam, qui a toujours sa manière de parler de la banlieue, mais qui en même temps s'est complètement réapproprié la question de la source. Et donc, ça permet de continuer l'histoire, en fait. Mm. D'ailleurs, Léa est intéressante aussi d'un autre point de vue, c'est qu'elle est naturopathe. Et dans les régions de déserts médicaux comme celle où je vis, on voit apparaître dans tous les villages des plaques naturopathes, réflexologues, énergéticiens, etc., qui en fait remplacent le rebouteux faute de médecins et qui, avec plus ou moins d'efficacité dans leur pratique, moi je suis assez neutre par rapport à ça, mais en tout cas font office de psy et de lieu où on va soigner ces petites maladies parce que le rendez-vous chez le médecin, c'est à Caen, c'est trop loin, c'est trop long, c'est trop cher. Et donc c'est intéressant toute cette espèce de sorcellerie qui renaît en fait de manière effectivement hyper contemporaine avec un peu de spiritualité asiatique là-dessus. Mais je trouve que c'est très porteur d'espoir parce que ça fait aussi, tout ça permet à nos campagnes de ne pas être simplement des zones industrielles agricoles avec des champs lisses et des pavillons, mais leur redonne beaucoup de chair.
Dans le roman, à un moment donné, vous décrivez le village de Saint-Firmin, et donc pas juste une description horizontale et immédiate, mais vous retracez toute l'histoire de Saint-Firmin en oui. une page, et on sent qu'il y a aussi la redécouverte de la profondeur historique. Voilà, ces terres mortes dans lesquelles il n'y a plus de lombrique, dans lesquelles il n'y a plus de vie, comme nous disent les microbiologistes, c'est aussi ce passé qu'on a voulu annihiler, et là, au contraire, en redécouvrant une terre vivante, on redécouvre aussi toute cette profondeur historique.
Mais aussi les pratiques. Par exemple, pour écrire ce livre, j'ai lu la monographie d'Antoine Follin sur le village au Moyen-Âge.
Ah oui,
qui est particulièrement ancré d'ailleurs dans le village normand. Mm. Et on s'aperçoit, ce que je mets en scène, qu'il y avait sous l'Ancien Régime des fabriques qui étaient souvent gérées par l'Église, mais pas toujours, et qui étaient des endroits où il y avait en fait une espèce de démocratie locale assez vivante, où les chefs de famille venaient toutes les semaines après la messe et discutaient sur un pied d'égalité des affaires du village, donc la date de la foire, la réfection du toit de l'Église, etc. Que donc, bien sûr, que sous l'Ancien Régime, il y avait moins d'état de droit. Mais quelque part, et paradoxalement, on peut dire qu'il y avait plus de démocratie quotidienne, discussion, de délibération et de fabrique du consensus. Parce que ces fabriques étaient censées aboutir à des décisions qui ensuite étaient notées par celui qui savait écrire et qui avait force de loi, qui pouvait être opposé au bailli, qui faisait jurisprudence. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, la fabrique de Saint-Firmin apparaît, parce que dans l'histoire du village qui sert de modèle à Saint-Firmin, Saint-Firmin est un village imaginaire, mais j'ai un village très précis en tête, j'en ai retracé l'histoire qui se reflète dans ce livre, et puis les légendes aussi et les mythes autour de l'eau, jusqu'à la fondation du village. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est que ces mythes permettent de comprendre les questions d'eau aujourd'hui. Parce qu'en l'occurrence, on s'aperçoit que le saint avait les pieds mouillés quand il traverse un champ. Alors on se dit, ah bah tiens, ce champ c'était une zone humide, mais maintenant on n'a plus les pieds mouillés sur ce champ. Mais pourquoi? Parce qu'il est drainé. Ah, mais est-ce que ce ne serait pas ça une des causes du problème? Et on s'aperçoit que oui, et que donc cette profondeur historique dont vous parliez n'est pas seulement un élément exotique ou sympathique ou gadget, c'est aussi quelque chose qui peut nous donner des solutions pour l'avenir, parce que le chemin de l'eau, c'est le même il y a 2000 ans et aujourd'hui, la topologie n'a pas bougé.
Et d'ailleurs, à un moment donné, vous parlez de reméandrement. Voilà. Donc, j'ai découvert le terme, et ça fait partie de ce langage scientifique qui arrive naturellement parce qu'il est porté par, justement, une universitaire. Reméandrer, rappelez-vous ce que disait mon maître Tricard, le pionnier de la géomorphologie, c'est une dialectique, tout agit, réagit et interagit, l'eau, l'air, la terre. Martin sourit, toutes les discussions avec Valérie finissaient inévitablement par le reméandrage, son obsession absolue, objet d'une tribune bisannuelle dans le monde. Il connaît la musique, recréer des faciès d'écoulement diversifiés, des berges naturelles, des bancs alluviaux mobiles, une ripisylve variée, un corridor fluvial boisé, des annexes hydrauliques, etc. Sauf que Martin ne ricane plus, il va devoir s'y mettre. Et donc le reméandrement, c'est le fait de... alors que les rivières ont été encagées, domestiquées, réalignées, de dire, bah non, en fait, faites sauter les digues, laissez l'eau retrouver son chemin normal. Et il paraît d'ailleurs que quand on laisse l'eau retrouver son chemin normal, les poissons reviennent.
Mais c'est la clé de l'hydrologie contemporaine. Là, si on parle, je sors un peu du roman. Et en fait, il y a beaucoup d'avant-garde qui travaillent là-dessus, en hydrologie Charlène Descollonges, en philosophie Baptiste Morisot, qui a écrit un très 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 beau livre sur les castors. Et justement, la manière dont les barrages castors reméandrent naturellement les rivières,
dans le livre,
ralentissent l'écoulement. Benoît Grimont-Prez, qui est un juriste, qui va sortir un livre qui s'appelle « Ralentir l'eau », qui lui fait le point des lois actuelles qui permettent justement ce genre de pratique. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que la vie sur les terres émergées n'existe qu'en ralentissant le chemin de l'eau. Il y a 300 millions d'années, quand il n'y avait pas de sol, pas de vie, les terres émergées étaient de la roche, l'eau coulait tout droit. Quand les êtres humains sont arrivés, qu'ils ont constitué un sol, les êtres vivants, pardon, leur première mission a été de créer des alvéoles, de créer des sillons, de créer des choses un peu labyrinthiques dans lesquelles on pouvait ralentir ce chemin de l'eau. C'est ce que veulent les galeries des vers de terre, c'est les alvéoles de nos propres organismes et c'est les méandres des rivières elles-mêmes. Parce que la rivière, jusqu'au 19e siècle, c'est pas une droite comme on le voit sur les cartes aujourd'hui, c'est une espèce de mare qui bouge ou qui avance, c'est quelque chose de flou, qui a une étendue en fait assez variable, suivant qu'il y a beaucoup d'eau, peu d'eau, elle va se épouser la plaine alluviale ou revenir dans son lit, et qui surtout méandre parce qu'on laisse les troncs morts dans l'eau, ça s'appelle des embâcles, et donc la rivière va les contourner, elle va former des canaux, et donc au lieu de mettre 2 heures à faire 2 kilomètres, elle va mettre 20 jours. Et vous avez là une solution très très forte par rapport au problème qui se profile d'inondation et de sécheresse, puisque vous transformez les terres adjacentes en éponges. Et donc, cette éponge, elle retient l'eau quand il y en a trop et elle la rend quand il n'y en a pas assez. Et donc, vous savez, quand on a eu les inondations cet hiver, le premier réflexe des gens, c'est de dire « Mais que fait l'État ? Il faut financer des digues et des bassins de rétention. Mmh. » Eh bien oui, ben, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. C'est toujours la même logique ingénieriale de tuyaux, complètement abstraite, alors qu'en fait, ça coûte beaucoup moins d'argent de reméandrer la rivière, c'est beaucoup plus efficace, c'est scientifiquement beaucoup plus fondamental, mais simplement, ça demande beaucoup plus de politique, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Alors, construire un bassin de rétention, il suffit de mettre de l'argent et puis d'avoir un arrêté préfectoral, alors que si on veut faire méandrer une rivière, il va falloir parler à tous les riverains, il va falloir créer des espaces de délibération. Donc, c'est plus laborieux, mais c'est aussi, évidemment, ce qui permet de faire renaître, au-delà de la rivière, la démocratie elle-même.
Alors, c'est effectivement tout le maître mot de la fin du livre, c'est la redécouverte d'une démocratie directe, locale, enracinée, et donc loin des délibérations jacobines, et loin de la com-com.
Oui.
Une ancienne France hérissée de liberté, comme disait un penseur politique qu'il ne faut pas citer, mais que connaît bien Richard.
Alors, une ancienne France, mais c'est quand même là, je reviens sur le terme, c'est une ruralité choisie. C'est-à-dire que les gens ne sont pas nés là, ils ne sont pas obligés d'y rester, ils ont toutes les aménités modernes pour partir s'ils ne sont pas contents. Quelque part, ils font le choix de se réancrer, indépendamment de leurs origines sociales ou professionnelles. Et ce que montre le livre, c'est que justement, tout le monde peut faire ce pas, même si tout le monde ne le souhaite pas.
Mais alors, si l'on suit votre évolution intellectuelle, et nous sommes lecteurs après tout de votre œuvre, moi comme Richard de Sèze, nous vous avions trouvé, il y a une décennie, philosophe. Et astucieusement, habilement, vous arriviez à associer les mots de libéralisme et de jacobinisme alors qu'on avait tendance traditionnellement en France à les opposer, arguant du fait que l'émancipation individuelle passait par un état jacobin niveleur qui permettrait effectivement d'avoir enfin une grande horizontalité d'individus. Vous étiez philosophe à ce moment-là, et les philosophes se laissent parfois enthousiasmer, gagner par les idées, fortiori les normaliens qu'on voit dans les mains sales, par exemple, où on passe d'idée en idée, de façon enthousiaste, etc. Bon. Est-ce que le fait de devenir romancier ne vous a pas justement fait un peu évoluer sur ce plan, et ne vous a pas fait voir finalement que eh bien, les grandes idées niveleuses, les grands refaçonnements finalement de la société par les idées, bien sûr je caricature certains vous essayent, c'est aussi l'occasion de répondre, ne vous a pas, en descendant d'échelle, l'échelle du roman finalement, l'échelle de l'homme, l'échelle de l'individu, l'échelle du visage, n'a pas été l'amorce de votre évolution intellectuelle?
Alors d'abord, y compris dans cette période libérale que vous mentionnez, mais que j'assume toujours aujourd'hui.
Libérale jacobine.
Voilà, j'ai toujours été sur le terrain, j'ai toujours fait des reportages, j'ai fait beaucoup de livres de reportages, j'ai reportage sur la liberté dans le monde, j'en ai fait une quinzaine, ensuite reportage sur l'intelligence artificielle, j'ai traversé le pays à cheval. Donc hormis le livre d'ailleurs auquel vous faites référence, qui est mon seul essai théorique, tous mes essais sont aussi des récits, et aussi été ponctué de longue date de romans, par exemple Kidnapping, qu'on a moins lu que cette tétralogie, mais enfin c'était un roman qui, justement, moi qui étais pro-européen, mettait en scène toutes les difficultés d'une Europe de libre circulation, où une Roumaine se fait exploiter par ses patrons anglais, qui eux-mêmes construisent une route en Roumanie, enfin bon. Tout ça en passant par des banques de développement européennes, que je connaissais bien. Donc, le roman a toujours été une manière pour moi de penser contre moi-même. Et par ailleurs, au sein de mes essais théoriques, il y a toujours eu une forme de mise en chaire qui m'a évité, je pense, les débordements idéologiques ou doctrinaux et de toujours évoluer et de jamais me laisser enferrer dans une doctrine rigide. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et ensuite, mon évolution, elle est quand même venue aussi, elle n'est pas venue du roman véritablement, elle est venue d'une expérimentation charnelle d'abord du rapport à la nature à travers ce voyage à cheval, du ralentissement à titre personnel, de mon enquête sur l'intelligence artificielle qui m'a fait vraiment tourner le dos à la technophilie. Donc ça a été une conflagration de paramètres qui font que j'ai naturellement trouvé de l'intérêt dans les questions de notre milieu, de notre environnement. Je dirais enfin, il était temps. Et qu'une fois que j'y suis plongé, je ne peux plus en sortir parce que le problème est tellement grave et le sujet est tellement intéressant que de quoi parler d'autre aujourd'hui. Après, s'agissant maintenant, et pour finir de répondre à votre question du paradigme intellectuel, je vais sortir une BD début octobre qui s'appellera La désobéissance du radic, et ça justement de tout mettre ensemble. Bon, et si on rêve un peu à un système total du monde, à une utopie, on peut parfaitement avoir cette capacité d'auto-organisation, d'auto-gouvernement local avec misant sur l'ordre spontané qui reflète quelque part sur le plan de la société humaine la manière dont les écosystèmes fonctionnent de manière naturelle. Et par subsidiarité, garder un État qui garantit, par exemple, les grandes libertés pour qu'on s'assure que ces communautés ne redeviennent pas féodales ou oppressantes. Je pense qu'on peut arriver à peu près à faire des poupées russes comme ça, qui permettent un assemblage par subsidiarité des différents niveaux politiques, en laissant beaucoup de choses se discuter au niveau local. Mais par exemple, si on pense au carbone, le carbone, c'est international. Ce n'est pas local qu'on va résoudre la crise des émissions carbone, c'est pas une taxe carbone mondiale. Donc voilà, chaque problème son échelle.
Vous savez, le grand reproche qu'on a fait à cette forme d'écologie, peut-être que on écoute en vous lisant, en vous écoutant, la pensée de votre compatriote normand Alexis de Tocqueville, qui était justement de faire redescendre la démocratie au niveau local, là où le bon sens pouvait opérer, loin peut-être de grands combats, de grandes discussions autour du pouvoir qui pouvaient paraître un peu lointaines. Mais on a fait souvent ce reproche à cette écologie que vous défendez, en voulant redescendre la démocratie au niveau local, en ramenant certaines questions au niveau effectivement de la cage d'escalier, au niveau de l'association villageoise, au niveau de tous les braves gars du monde, voilà, du bassin versant, lesquels se tiendraient les coudes et trouveraient non pas l'idéologie mais l'idée la plus inventive et la plus intelligente qui permettrait de résoudre un problème et non pas un grand problème d'ensemble. On lui a souvent fait les reproches de vouloir distraire du rapport de force et d'expliquer que l'écologie souffrait moins peut-être d'un manque d'inventivité, d'un manque de consensus, d'un manque de concertation, que d'un manque de décision, que d'un manque de contraintes, et d'un manque de volonté politique d'affronter ceux qui effectivement préfèrent le profit à la conservation de l'environnement.
Oui, c'est une très bonne question, mais je vais vous donner j'ai deux choses. D'abord, Tocqueville est une très bonne référence pour moi. J'ai fait samedi dernier au colloque Tocqueville, une intervention sur Tocqueville et la nature, puisque on retrouve dans notamment 15 jours dans le désert, qui est un petit texte de Tocqueville, un Tocqueville vraiment empreint d'un immense sentiment de nature et conscient que la société industrielle, que par ailleurs il appelle de ses voeux, va créer des destructions. Il parle d'un amer regret. Et je trouve que cet amer regret, à l'origine même de la société moderne, du libéralisme tocquevillien, est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, et même si on assume le progrès, ça se fait au prix de quelque chose.
Voilà. Il applique à tout domaine, d'ailleurs, amer regret.
Et amer regret, effectivement, sur la démocratie, sur le passage démocratique, enfin, cette espèce de nostalgie tocquevillienne, effectivement, traverse toute son œuvre. Maintenant, sur votre question sur les rapports de force, je vais prendre un exemple très précis, c'est celui du sage Ille-et-Vilaine. Il y a quelques mois, le sage Ille-et-Vilaine est parvenu, après 2 ans de délibération, donc le sage, c'est des structures locales de gestion de l'eau, qui sont peut-être les plus astucieuses de toutes celles qui sont en place administrativement et qui réunit des acteurs très différents, des acteurs de l'environnement, des agriculteurs, des associations, etc. Eh bien, le sage Ille-et-Vilaine avait convenu d'un compromis consensuel pour que les agriculteurs arrêtent de mettre des produits phyto sur 5% des terres, hein, c'est quand même assez modeste, qui étaient les plus proches des cours d'eau, de manière à ce qu'on évite de manière très concrète les coûts de dépollution, et puis évidemment, si on pousse un peu plus loin, les coûts aussi de réparation médicale de tous les gens qui seraient affectés par ces pesticides. Les agriculteurs boivent la même eau que les autres, et donc, ils s'étaient mis d'accord. Et là, l'État jacobin est arrivé, En l'occurrence, Macron débarquant à Rennes, c'est ce qu'on m'a raconté en Bretagne en tout cas. La FNSEA s'est mise sur le coup, les grands lobbies au niveau national. Et on a dit, hop, tout ça, ça va s'emballer, on arrête. L'État a décidé d'un moratoire sur les décisions des sages, donc c'est très violent. C'est-à-dire que la démocratie locale de l'eau, les décisions locales sur l'eau sont toutes annulées aujourd'hui, au profit d'une réétatisation de la politique de l'eau au service de certains agriculteurs, c'est-à-dire des gros agriculteurs défendus par la FNSEA. C'est bien la preuve, cette histoire, que quand les conditions sont réunies, on peut revenir sur les conditions, puisque le livre en parle beaucoup, quand les conditions sont réunies, la fabrique du consensus, elle est difficile, mais elle est possible, parce qu'il y a peut-être des rapports de force économiques, mais quand il y a 100 personnes dans le préau ou sous la halle qui doivent discuter ensemble, c'est aussi une manière de catharsiser ces rapports de force économiques. Et je pense qu'en revanche, le lobby au niveau national, il est complètement hors de contrôle, parce que là, il fonctionne dans un espace qui est complètement abstrait, détaché de toute de la réalité des attentes de ses propres militants sur le terrain.
Même si le lobbyiste est déclaré auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique.
Oui, mais il y a une forme de rapport quasiment culturel au lobbyiste qui fait que le politique, quand il voit quelqu'un en costume, qui parle un beau langage, qui est d'ailleurs probablement issu de l'administration et qui est passé dans le consulting, il y... C'est pas qu'il est corrompu, le politique, il dit « Ah ben voilà, ça c'est sérieux. » Et les autres là, les foufous là, de la Confédération paysanne, c'est pas sérieux.
Ou même ceux de la coordination rurale d'ailleurs.
Oui, mais je pense que c'est l'inverse. C'est aujourd'hui les gens qui alertent, les gens qui prônent des solutions locales, ce sont les gens sérieux. Et les gens qui aujourd'hui nient la gravité de ces problèmes-là sont des zozos et des irresponsables.
Ça me rassure parce que tout à l'heure, quand vous avez décrit votre pyramide vertueuse avec tout en haut l'État qui garantissait nos libertés, je me suis dit, oui. Il ne va pas parler d'Emmanuel Macron quand même. Et donc, voilà. Donc, merci.
Il parle des grandes libertés. Ouais.
Dans votre roman, et il nous reste 4 minutes seulement, mais donc on a parlé de la thèse, on a compris que la fin, c'est justement la fabrique de ce consensus et que sous le. Les circonstances, en fait, les plus pressantes, et parce que l'eau manque terriblement, et parce que quelqu'un propose de reméandrer l'eau et donc de faire en sorte que l'eau puisse être à la fois disponible, bonne, propriété de tous, captée par aucun, avec d'ailleurs un échange de pâture. Donc, vous avez mis en scène, c'est quasiment utopique la fin, mais on a envie d'y croire. D'ailleurs, parce que justement, ceux qui croient à cette solution la découvrent quasiment par hasard au fruit d'une discussion où même tout le monde est d'accord, même Salim, le collapsologue, qui est l'un des personnages qui m'enchante parce que voilà, il fait partie des personnages un peu truculents, un peu ridicules, qui permettent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, on n'est pas juste en train de souffrir avec Maria qui n'arrive pas à affirmer son pouvoir local. On n'est pas en train de se prendre de pitié pour ce malheureux Jobard dont on comprend la détresse. Voilà, Salim, lui, est un collapso. Et donc, pour le collapso, le pire n'est pas la perspective que tout finisse, c'est l'idée de ne pas le voir. Voilà, de disparaître avant le grand soir, de s'effondrer avant l'effondrement. La pire angoisse de Salim est que toutes les précautions prises pour sa propre survie se révèlent parfaitement inutiles, qu'un quelconque cancer finisse par avoir raison d'une prudence pourtant méthodique. Il refuse l'idée d'agoniser parmi des machines bipantes alors qu'il avait tout prévu pour ne pas mourir déshydraté. Et donc ça fait partie des personnages voilà, qui à chaque fois sont un peu caricaturales, un peu drôles, mais qui surtout permettent d'équilibrer le paysage du roman. Il nous reste juste une minute.
Un détail du roman qui était touchant, c'était la découverte de l'amour par Martin. Puisque l'amour à la Normande et à la Cotentinaise, c'est vraiment, on épouse la voisine, la fille de la voisine, et on construit l'amour patiemment, avec beaucoup d'abnégation, et parfois ça marche, et souvent ça marche assez, justement. Alors que là, votre personnage tombe sur la passion amoureuse, le coup de foudre, justement.
Oui, alors j'ai peu de temps pour développer le fait que chacun de mes éléments, justement, est fondé sur une sexualité particulière. L'humus, la terre, c'était autour de la pansexualité, de espèce d'hermaphroditisme originel. L'eau, c'est plutôt l'élément de la sexualité, hein, le A privatif, où à la fin, Martin comme Léa, finalement, renonce au désir, au plaisir, parce que l'eau, c'est l'élément quand même pour moi de... Enfin, c'est pas étonnant si c'est l'élément de la purification, parce que, et que quand on se sent souillé, on va sous sa douche et qu'on bénit avec de l'eau, parce que l'eau, c'est ce qui efface, qui arase. L'eau froide n'est tout sauf un élément sensuel.
Il faudra absolument que vous reveniez pour le prochain. Et comme ça, vous pourrez. La première question sera voilà. Sur la sexualité des éléments.
Merci.
Merci beaucoup, Gaspard Koenig, d'avoir été avec nous. Et merci d'avoir écrit À quoi, donc, que je conseille à tout le monde, À quoi de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire.
Merci à vous.